premier épisode de cette pointe de conversation avec Robert Gosselin de WAI. On y jase de l'âge d'or de Flash, de son déclin abrupt à l'arrivée du iPhone et aussi de l'importance de s'adapter aux mille et un changements de l'évanescente technologie. Bon podcast!
Salut, c'est Normand.
Salut, Normand.
Tu as réglé tes petits problèmes?
Oui, j'ai un petit problème d'enfant et d'essence.
Hey, wow, ça te part une journée.
Bon, j'arrive à une place où je vais pouvoir tourner puis me garer.
C'est plate parce que je connais ça, une bonne application qui t'aurait permis de trouver un parking.
Ouais, c'est ça. En reparler si tu veux.
Ouais, sûr qu'on va en reparler. Fait que peut-être pour ça, partir ça tranquillement, je te connais un peu, mais moi, faire semblant, je te connais pas du tout. Tu veux-tu me parler un peu de toi, qui es-tu, d'où tu viens?
Ouais, ça fait 20 ans presque que je suis dans l'industrie du numérique. J'ai commencé en 1999 en terminant un beau petit deck en multimédia dans une école qui s'appelait l'Institut de Metz.
Ouais.
Et puis, j'ai eu la chance de travailler dans la bulle des dot-com, passer à travers des entreprises comme BCA, Emergis, Neuron, Québécois, etc. Donc, j'ai vraiment été très, très impliqué, dans le fond, dans tout ce qui était l'industrie, qui était en développement de 2000 à 2009-2010.
Tu faisais quoi là-dedans?
Très spécialisé. Au tout début, j'étais beaucoup dans l'expérience client, là, qu'on appelle aujourd'hui UX/UI, là, si on veut. Ouais. Mais j'étais, début des 2000, tu faisais tout. Hein. Fait que tu concevais les interfaces, tu les intégrais en HTML, tu les dynamisais en PHP, puis du côté, tu faisais un petit jeu en Flash pour pouvoir l'intégrer dans le portail d'un jeu, parce que dans ce temps-là, on faisait des portails. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une compagnie de jeu qui s'appelait Infogrames.
OK.
Donc, Infogrames était aussi gros qu'Ubisoft, même peut-être plus gros. C'est une des plus grosses compagnies de jeu au monde. Un portail de jeux vidéo qui s'appelait Game Citizen. J'ai travaillé là à titre de designer web, mais ma première expérience a été vraiment là. Puis de fil en aiguille, je me suis plus tourné vers la programmation. Puis j'ai vraiment plus appris par mes expériences la programmation. Mais en gardant toujours vraiment un œil sur l'interface, sur l'expérience usagée. C'est toujours ça que j'ai beaucoup aimé.
Okay.
Jusqu'à temps que j'arrive chez Sylvie comme co-directeur de création interactive, où là, je couvrais les deux chapeaux.
C'était-tu particulier à cette époque-là que quelqu'un qui soit plus du côté de la programmation, soit nommé directeur de création, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Généralement, un directeur de création, c'est parce que tu écrivais ou tu dessinais.
Oui. Effectivement, c'était pas... J'étais le premier à être nommé chez CDI, co-directeur de création interactive. Avec le recul, je dois avouer que c'était pas simple. Malgré que j'avais des très bonnes idées, j'étais capable de l'idée, j'étais capable de bien faire mon travail. C'était peut-être par manque d'expérience aussi, mais aujourd'hui, je réalise que les directeurs de création ont justement, comme tu dis, sont très bons en écriture, vont avoir plus de culture, je te dirais, générale et même spécialisée que moi j'en ai. Donc, ça leur amène des compétences plus grandes. Malgré tout, en interactif, je tirais bien mon épingle du jeu. J'ai fait des beaux projets dont j'ai été très fier. Mais si c'était à refaire, je ne sais pas si j'aurais suivi le même chemin.
Mais c'était-tu juste pas simple parce que, comme tu dis, c'était peut-être moins ta tasse de thé, mais c'était-tu pas simple aussi parce que j'imagine que les mandats sur lesquels tu travaillais, c'était des mandats qui étaient plus larges que juste le web, fait que nécessairement, tu devais te retrouver à collaborer avec d'autres directeurs de création qui étaient plus de la télé, etc.
Effectivement, ça, c'était peut-être un des points peut-être les plus complexes. Quand tu viens du numérique, surtout parlons là, 2007, là,
ouais.
Le numérique, c'était pas comme aujourd'hui. Là, c'était pas vu. Aujourd'hui, les campagnes démarrent quasiment par le web.
Ouais.
Mais je dis ça, puis je trouve que ça revient au même. Là, c'est juste que le média est différent, mais le travail est le même. C'est de créer, c'est de trouver des bons concepts, etc. Ça
ouais.
Se fait, sauf que on va le démarrer sur le web aujourd'hui, peut-être avant de le démarrer à télé. Là. Mais bon, ben, j'étais peut-être perçu comme un peu un outsider. Je sais pas si ça faisait l'unanimité ou pas, mais bref, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu avec tous mes collègues.
C'est-tu directement après Sidley que tu as décidé de fonder ta boîte?
Oui, c'est après Sidley que j'ai décidé de fonder ma boîte.
Ça fait que tu n'avais vraiment pas aimé ça.
Non, j'avais aimé ça. Oui. C'est juste que... J'ai toujours eu la fibre entrepreneur.
OK. Non, non, je te niaisais.
Je croyais en moi. Quand j'ai quitté Sidley, c'était pas nécessairement pour fonder une boîte, peut-être pour être pigiste, parce que moi, j'avais quand même une spécialité en flash, qui oui. était très populaire en 2008-2009. Ça allait bien jusqu'à temps que l'iPhone sorte, ou puis là, ça a secoué un peu cette technologie.
Ouais, ouais, t'étais le Bitcoin de l'époque.
J'étais le Bitcoin de l'époque. C'est drôle parce que quand j'ai quitté Sidley, je me rappelle avoir eu ma conversation avec Philippe Meunier, puis c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, fais-le, c'est correct de tout faire. Puis il était bien content de ce que je faisais, mais il m'a bien dit, tu vois, les technologies, ça change aux 2-3 ans.
Ah.
Dans ma tête, dans ma jeune tête naïve, malgré que je croyais que j'avais très grande expérience, je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, comme si le flash allait tomber. Et voilà, le flash a tombé après justement 2-3 ans.
Ouais.
Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce que je veux dire, c'est que Philippe avait raison. Raison. C'est ce qui m'a amené à créer un peu mon entreprise, devenir un petit peu plus gérant.
C'était-tu vraiment We Are quand tu as commencé, ou quand tu dis ton entreprise, c'était plus Robert Gosselin Incorporé?
Exactement, c'était plus Robert Gosselin Inc. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 mois. Puis depuis janvier 2010, j'ai fondé We Are Interactive.
Puis si je me rappelle bien, à cette époque-là, vous aviez comme deux grands chapeaux. Tu avais un partner qui était plus dans le gaming, toi tu étais plus flash, puis déjà vous commenciez à avoir les opportunités au niveau, les iPhones venaient d'arriver, fait que vous tentiez de vous positionner en tant que king du mobile aussi. Là.
Puis oui, puis ça a bien fonctionné. On a même fait l'application Tout.tv pour Android, qui était une des applications les plus populaires. Là,
c'est vrai.
En 2010-2011, dans ces coins-là. On a fait ça, mais on s'est aussi positionné comme studio de production pour les agences de publicité.
Ouais.
Quand tu démarres une entreprise et que tu veux rapidement aller chercher du travail, c'est certain que les agences à cette époque-là, c'était là que le travail était. Là. Fait que, moi, j'avais quand même beaucoup de contacts, donc pour moi, c'était simple de trouver des contrats, si on veut.
Ouais.
Mais rapidement, puis je reviens encore à ce que Philippe m'avait dit, on s'est ajusté par rapport à la technologie parce qu'on avait des demandes très, très variées. Donc, à la suite du départ de mon associé, j'ai décidé de vraiment ouvrir au web et au mobile, puis de vraiment développer ces deux technologies en parallèle.
Ouais. Puis maintenant, t'es-tu encore dans le web puis le mobile? Parce que Philippe l'a dit, ça change la technologie, fait que ça a dû changer une couple de fois aussi depuis que tu as décidé de te concentrer un peu plus sur web mobile. Mobile, ça existe encore, ça? Tu faisais beaucoup d'apps.
Ouais. Avant, j'avais une équipe de développeurs mobiles qui travaillait avec nous. Maintenant, on y va plus avec des services externes.
Okay.
La raison est simple, c'est que c'est pas constant la demande pour le mobile. Il y en a. Il y a des entreprises qui l'ont peut-être plus constant. Nous, ça a été très constant, je te dirais, les 3 premières années.
Ouais.
Après, on a vu un changement, puis de maintenir une équipe mobile pour 3-4 apps par année, c'était pas assez.
Ben non. Donc, juste pour l'enterrer en bonne et due forme, s'il faut l'enterrer, faisait des apps. Tout le monde faisait des apps au même titre qu'avant. Tout le monde voulait se faire des microsites en flash. Ça existe, c'est encore utile des apps? Ça a-tu été comme juste un trend où à un moment donné, le monde s'est rendu compte, encore une fois, on fait ça sans trop savoir pourquoi, puis on passe à d'autres choses?
Je pense qu'aujourd'hui, on sait plus comment utiliser les apps.
OK.
Donc, on n'en fait plus juste une pour en faire une. On le sait par expérience, on avait fait une ensemble sur la guerre de, je pense que je me rappelle plus quoi. À l'époque, c'était intéressant, mais est-ce que c'était téléchargé? Est-ce que c'est là où on doit se poser des questions? Je pense qu'aujourd'hui, les applications sont de plus en plus utiles et c'est moins de l'entertainment. Tu sais. Moi, j'utilise encore des applications, mais c'est vraiment parce qu'ils me sont utiles à mon quotidien. Par exemple, mon Spotify, je m'en passerai pas.
Ouais.
Oui, je peux l'écouter sur le web, mais sur mon téléphone, je ne peux pas avoir l'application. Quel autre exemple je peux te donner? Chez moi, j'ai Google On, One On. Là, j'ai l'application Google Wi-Fi. J'ai un problème sur le ralentissement de mon Internet ou quoi que ce soit, je suis capable de le voir en temps réel. Bon, là, je trouve qu'il y a des utilités. Est-ce que pour shopper en ligne sur la marque X de détail, c'est une bonne chose? comprend mieux comment l'utiliser. T'sais, par exemple, nous, on a un de nos clients, c'est Uniselec. Uniselec sont dans les pièces automobiles. Ils ont des ateliers mécaniques, des ateliers de débosselage, etc. On leur a conçu un outil qui leur permet de faire des inspections mécaniques sur leurs véhicules dans leurs ateliers mécaniques. Ce qui était avant sur des feuilles de papier, si on veut.
OK.
Bon, qui était tout mal gribouillé, etc., qui venait sale parce que les mécaniciens prenaient ça, il y avait les mains pleines d'huile, etc. Maintenant, ça se fait à travers une application. Tout ça est centralisé dans un système. Les aviseurs techniques peuvent aller voir plus facilement c'est quoi le résultat de l'inspection. Ils peuvent prendre des rendez-vous directement avec les clients. Donc, c'est, tu vois, c'est, je pense que c'est là où, ça, où la différence, elle est, c'est que selon les contextes, tu as différents outils que tu peux utiliser. Dans le cas, ben, pour faire une inspection automobile, là, ça va bien parce que ça répond bien, c'est rapide.
Fait qu'on revient à la base du mot application, c'est que c'est appliqué à réaliser quelque chose et non pas juste une simple copie d'un site web ou d'un site mobile.
C'est ça. Pour que ça ait sa valeur ajoutée.
C'est tout pour cet épisode. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet, téléchargez l'application iPad Grenier Magazine dans le App Store. Et si ça vous tente, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag GrenierMag et mon identifiant Twitter, Pizza for All. À la prochaine!